Bienvenue sur la chaîne AAU, Ambiance, Architecture, Urbanité.
Peut-être dans un premier temps ouvrir la discussion entre vous, c'est-à-dire que comment est-ce que vous vous êtes entendus, écoutés mutuellement? Est-ce que vous avez des réactions aux paroles, aux propos des uns et des autres? C'est-à-dire peut-être de façon très libre, qu'est-ce qui a sollicité votre attention dans les interventions des autres, quoi? Peut-être qu'on peut commencer comme ça, tout simplement. Yann?
Oui, en fait, je voudrais réagir par rapport à la dernière présentation. Effectivement, il faut savoir comment les gens utilisent et pourquoi ils utilisent ces notions-là. Et dans le cas de Gustenberg, je pense que la redécouverte de la notion de milieu part vraiment d'une réflexion sur la recherche des pourquoi des différences. Donc effectivement, lui était au Japon, toi tu es passé par la Chine. Il y a vraiment cette tentative de comprendre pourquoi. Alors tu as cité le livre sur Vive l'espace au Japon, où effectivement il prend conscience que la notion d'espace n'a pas le même sens chez les Japonais et chez nous. Il faut savoir qu'en 80, si je ne me trompe pas, il y a une exposition d'Arate Sozaki en 79 qui a dû tourner un peu partout dans le monde, où on a une prise de conscience de ces différences de notion d'espace. Elle arrive après la publication d'un certain nombre d'articles sur le sujet. Et donc, chez Augustin Berg, l'utilisation de la notion de milieu, c'est effectivement pour essayer de théoriser le pourquoi des différences. Pourquoi, effectivement, comment on articule l'objectif, comme tu l'as dit, au subjectif. Et comment, voilà, c'est un travail de... Alors, on pourrait l'utiliser autrement, effectivement, on peut utiliser la notion de milieu, comme tu l'as dit, et dire simplement, voilà, on est dans un milieu, et comme on est dans un milieu, souvent on n'a pas conscience de ce qui se passe autour, parce qu'on est plongé dedans. Donc, il faut prendre une distance, souvent, par rapport à ce milieu pour réagir. Mais dans le cas d'Augustin Berg, je pense que toute une partie de son travail, en fait, c'est d'essayer de comprendre ce pourquoi, en fait, de la différence. Et voilà pourquoi lui, il l'a beaucoup utilisé. Donc, effectivement, après, on peut dire... Je ne sais pas, quand je t'écoute, je n'ai pas l'impression que ça soit très différent de ce que dit Berg, mais simplement, tu n'utilises pas dans le même sens et pour les mêmes raisons. Quoi, en fait. Et, alors après, juste une autre remarque, il y a un autre texte de Bernard Lassus que je n'ai pas cité, mais qui est un texte beaucoup plus récent, c'est du paysage aux ambiances successives. Et je me suis demandé, effectivement, je crois que c'est assez intéressant, parce que je me suis demandé si, quelque part, on ne pouvait pas comprendre l'ambiance comme une sorte de sous-partie du paysage. Voilà, donc, en fait, le paysage serait un ensemble plus vaste et qui est lui-même composé d'un ensemble d'ambiances. Et à partir de là, pour moi, si je dois faire la hiérarchie entre paysage, ambiance et milieu... Pour moi, si je la prends dans le sens de Berg, milieu, c'est d'essayer de comprendre ce pourquoi des différences. Donc, il y a le pourquoi des différences autant dans les ambiances que dans les paysages. Donc, c'est assez différent, en fait, pour moi, de ces deux notions. J'aurais tendance, effectivement, on met toujours en avant le côté visuel du paysage. Mais bon, vous savez comme moi qu'il y a eu des gens qui se sont fait des tests sur le paysage sonore, etc. Donc, le mot a eu tendance un petit peu à évoluer. Mais on aura peut-être un peu l'impression que le paysage, effectivement, c'est plus dans une idée de globalité, de quelque chose de plus global. Et je trouvais ce titre de Bernard Lassus, où il voyait effectivement les ambiances successives et le paysage, qui construirait peut-être cette idée d'un paysage, et peut-être une idée intéressante. Voilà, c'est tout.
Oui, moi, j'aimerais... En fait, je trouve finalement intéressant de toutes ces réflexions autour de termes qui renvoient en fait à des usages qu'on fait du terme, des usages qui sont faits du terme. Et on se rend bien compte que c'est difficile de rechercher des définitions, et je crois que c'est même inutile. Ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, à mon sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Il est plus intéressant, effectivement, de réfléchir à la façon dont un terme est utilisé, dans quel contexte, et aussi en relation avec quel autre terme. Voilà, donc être dans cette attitude-là me paraît tout à fait important. Et puis, pour réagir alors de manière très ponctuelle sur ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de choses dites ce matin. Moi, je voudrais aussi dire que ce qui nous a été demandé, c'était de rester dans le contexte franco-français. Bon, alors, c'est vrai que c'est un exercice, c'est une contrainte, mais il ne faudrait pas que cette commande nous fasse oublier que les choses se passent à côté et qu'il y a beaucoup aussi d'aller-retour. Voilà, on a parlé de Bernard Lassus, Yann parle du paysage global de Bernard Lassus, mais au moment où Bernard Lassus parle de paysage global, on parle dans l'histoire du paysage et dans le monde. Garrett Egbo, aux États-Unis, écrit un livre qui s'appelle The Landscape We See, et il parle de total landscape. Donc cette idée de totalité fait partie de globalité et quelque chose qui est dans l'air du temps aussi et qui est réfléchi par les uns, par les autres. Donc voilà, si le contexte français est intéressant pour nous, l'exercice qu'on fait, je crois qu'il ne faut pas oublier que voilà, on est quand même dans un contexte plus large, et c'est intéressant aussi d'avoir en tête que les idées circulent. Et puis l'autre chose que je voudrais dire, c'est la réflexion de Théa sur le rapport entre ces termes et les politiques publiques. Je trouve que c'est une voie intéressante de réfléchir alors à la fois à la façon dont ces notions ont pu institutionnaliser des choses, alors parce que c'est à la fois c'est pas uniquement les politiques publiques, pas uniquement l'action, c'est aussi des institutionnalisations. On l'a vu à travers des centres d'études, à travers le CNER, à travers des... Voilà. Donc il y a quelque chose aussi à interroger sur la façon dont ces notions se relient à des formes, à des institutionnalisations. Voilà. Et puis, l'idée de politique publique, évidemment, elle renvoie à l'action. Et cette notion d'action, elle passe par ça, mais elle est aussi liée à des tentative de modélisation à des réflexions plus théoriques. Berck invente la question, lui essaye de rejoindre l'opérationnel et il y arrive avec un peu de difficulté. Il reste un peu au bord, à mon avis, mais il parle des matrices. Il parle du milieu comme d'une matrice. Mais parce que la question de l'action le préoccupe et l'intéresse. Mais il reste un peu au bord parce qu'il est, voilà, il n'est pas issu du milieu opérationnel. C'est un géographe et c'est un chercheur. Donc ça, ça me paraît intéressant de réfléchir aussi à la façon dont l'action et l'opératoire est pris en compte. Et quelle forme ça prend, par quelle voie, finalement. Et les voies sont assez multiples. Là, on vient de parler d'une voie un petit peu plus qui passe par une théorisation, des voies qui passent par l'institutionnel. Et puis, je pense qu'il y a aussi toutes les voies qui sont liées à la méthodologie, à tout ce qui est mis en œuvre aussi dans la réflexion théorique quand il y a rencontre avec le réel. Et là, je crois que tout ce qui a été développé au Cresson sur le sonore, tout le travail de Jean-François Augoyard, ce que vous avez développé après avec le sonore, c'est assez exemplaire, à mon sens, justement, pour illustrer cette dimension méthodologique. Tout le travail de catégorisation, les typologies qui ont été inventées à travers toutes les études de cas qui ont pu être produites, à travers les thèses, etc. Donc là, voilà, c'est encore une autre modalité d'opérationnalité.
Si vous voulez, je peux vous donner deux, trois informations qui peuvent pousser le débat et qui trottent dans ma tête, mais je ne sais pas tout à fait s'il faut les relier, mais je trouve ces informations assez intéressantes. Alors déjà, si on fait des liens avec l'international, c'est quelque chose de geste. Si vous prenez le texte de Kenneth Frampton, sur la question du régionalisme critique. Si je ne me trompe pas, il est de 1983. Dedans, il y a une réflexion sur l'importance de dépasser le visuel et de prendre en compte le tactile. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'avait été signalé par Philippe Madec lorsqu'on avait fait le colloque à Cerisy. Sur le coup, ça ne m'avait pas totalement marqué. Je l'ai revisité par la suite. Et je trouve que ça serait intéressant de se demander d'où vient chez Kenneth Frampton cette idée, effectivement, de revenir sur le tactile et de dépasser le visuel. Et c'est une idée importante parce que c'est une autre façon d'analyser l'importance des sites par rapport à l'architecture moderne. Alors, dans les liens qu'on peut faire, il y a peut-être des idées intéressantes. Après, tu as cité, Frédéric, la question du paysage total ou global. Mais par exemple, on peut savoir que dans la création du landscape urbanisme, que a mis en place Körner à partir des années 2000, il est quand même intéressant aussi de voir que des gens comme Bernard Lassus enseignaient à Philadelphie, à l'université de Pennsylvanie, et que c'était dans le bureau d'à côté de lui. Donc je ne peux pas du tout dire que James Körner a été inspiré par Bernard Lassus, mais on peut imaginer que néanmoins, il a pu avoir peut-être quelques sources d'inspiration sur certaines choses, et qu'il y a sans doute des courants à voir. Si vous prenez aussi le livre, un titre d'un livre que je trouve aussi intéressant, c'est le livre de Norbert Schulz, Denis Loti, parce qu'on retrouve dans le titre du livre de Norbert Schulz, Denis Loti, l'utilisation des mots ambiance et paysage dans la version italienne, et qui ont été, je crois, repris dans la version française. Et je trouve que c'est intéressant de voir à cette époque, que 79, on voit qu'il y a cette idée que ces notions-là deviennent importantes pour penser l'architecture. Donc je trouve que ça nous donne quand même des repères de voir de transferts qui s'élaborent et qui se mettent en œuvre et qui ne sont pas insignifiants. Et surtout, il y a la question de la phénoménologie, qui est quelque chose d'assez prégnant en fait chez Christian Norbert Schulz, qui commence à monter en puissance dans l'ouvrage Denis Loti, mais qui n'est pas évident parce qu'en fait on a l'impression que la perception de la nature reste quand même pour lui toujours un peu la même chose. C'est quelque chose on voit qui commence à se mettre en œuvre dans ces années-là et qui va s'accélérer par la suite. C'était juste pour vous donner quelques repères que je trouve assez intéressants en fait.
Si je peux juste, en réaction à ce que Frédéric a dit sur la question des rapports à l'action et d'observer aujourd'hui l'usage qui est fait dans quel cadre. Parce que, encore une fois, je pense que, alors si en plus on ouvre de la France au monde, on peut très rapidement se perdre. Et je pense que, voilà, là, on parlait de définition, est-ce que l'ambiance est partie du paysage ou pas. Il y a des textes qui disent ça et des textes qui contredisent complètement ça. Enfin voilà, je pense que c'est un exercice qui est un peu périlleux peut-être si on s'y prête avec du sérieux. Mais par contre, je reviens sur la question de la contemporanéité parce qu'aujourd'hui, enfin, moi je me questionne vraiment pourquoi ça revient. Et on voit qu'il y a des cycles comme ça, qu'il y a eu des périodes où ces mondes-là, avec ces mots-là ou avec d'autres, sont revenus sur les devants de la scène de manière très différente. Aujourd'hui, très, très clairement, ils sont de nouveau là. Je veux dire, nous, on fait circuler entre nous au labo les annonces et les appels qui sortent, les livres qui se produisent. C'est quand même, la production est quand même très, très soutenue aujourd'hui autour de ces questions-là. Et Frédéric disait, il faut regarder là où c'est utilisé et pourquoi c'est utilisé, dans quel cadre. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose là à ne pas vraiment louper. C'est-à-dire, j'ai l'impression, si on essaye toujours de comparer les trois, ou en tout cas les deux, sur lesquels je peux m'exprimer un peu plus, leur usage n'est pas exactement le même. Dans l'un, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'institutionnaliser et de l'instituer. C'est-à-dire le paysage, maintenant, c'est facile. C'est facile, tout le monde croit qu'on parle de la même chose quand on l'utilise, etc. L'ambiance, ce n'est pas un terme qui va être très présent, je trouve, dans les mondes de l'action. Je pense notamment à des concepteurs, mais aussi à des commanditaires de production du cadre bâti, etc. Peut-être chez les archis, mais ça, c'est une déformation de leur formation. Mais ça reste quand même de l'ordre de l'implicite, toujours. C'est comme si on l'attaquait pas aussi frontalement. Je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser là-dedans, sur ce qu'on utilise et ce qu'on n'utilise pas, notamment quand on produit de l'espace dans lequel on évolue les uns et les autres, parce que je pense qu'il y a encore des choses qui ne sont pas très claires. Dans la théorie, il y a une réalité de comment les choses se définissent, et après comment ils se mettent en œuvre et qu'est-ce qu'ils cachent ou qu'est-ce qu'ils amènent avec eux. On a encore, je pense, beaucoup à faire et à apprendre.
Peut-être pour juste par rapport à ce que tu disais, le fait que l'ambiance soit peut-être moins utilisée dans le monde de l'action, moi je pense au domaine du marketing par exemple, qui est aussi quand même présent. Alors moi, à l'écoute de ce que vous avez dit et de la discussion, je me disais effectivement, ce serait une erreur, je suis d'accord avec Frédéric, de chercher à définir les termes. Je crois que c'est certainement pas la bonne option. Mais par contre, il me semblait qu'il y avait plusieurs pistes qui étaient lancées au cours des interventions pour essayer de comprendre les articulations entre les trois termes. C'était celle des sous-catégories ou des outils qui avaient émergé dans le cadre de l'usage de ces notions, paysage global, unité d'ambiance, notion d'embrayage, etc., etc. Donc tout un ensemble sous-catégories au sens où elles sont moins englobantes, mais sans doute plus opératoires. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas redescendre d'un cran pour aller voir plus précisément ce qu'il y a derrière chacun de ces outils-là, pour éviter une globalisation trop uniformisante, disons. Première question. Donc première façon d'approcher les choses. La deuxième, c'est que j'ai l'impression aussi qu'on a affaire à des logiques de nature assez différentes. Quand on dit l'ambiance peut être considérée comme une des dimensions du paysage, et quand Pascal nous dit, adoptons plutôt une logique fractale, là on voit bien qu'on a des logiques de pensée qui sont de nature radicalement différentes. Donc sur quoi on s'appuie en fait pour entrer dans ce questionnement je pense que c'est, voilà, est-ce que c'est un rapport d'inclusion, un rapport de déclinaison les logiques sont de nature assez différentes selon ce que vous avez proposé. Et puis la troisième, qui me paraît, moi, évidemment, en tant que pragmatiste invétéré, me paraît absolument importante, c'est ce que tu disais, Frédéric, c'est quels sont ces usages du terme, qu'est-ce que chaque notion produit, en fait, quels sont leurs effets. Et si on passe par là, c'est-à-dire on rentre pas par les notions, mais on voit quelles sont leurs conséquences, peut-être, et c'est ce que tu disais là aussi, c'est-à-dire que peut-être que ça peut être une façon aussi de mettre en perspective les notions les unes par rapport aux autres dans leurs conséquences pratiques, dans leurs dimensions opérationnelles, et peut-être pas dans une démarche de définition et de clôture en fait des notions, quoi. Donc il me semblait qu'il y avait plusieurs pistes possibles pour mettre en discussion ces termes-là, soit en descendant d'une échelle, soit en s'interrogeant sur le type de logique qu'on met en œuvre pour y réfléchir, soit en s'interrogeant sur les effets et les conséquences des notions dans le champ de la connaissance ou celui de la pratique, quoi.
Oui, pour moi cette question de l'usage, c'est vrai que c'est assez, pour moi, assez clair. C'est la question du projet, c'est-à-dire que comme je n'ai jamais pu décider si j'étais chercheur ou si j'étais projeteur, que j'ai toujours dit qu'un bon chercheur, il était projeteur, et qu'un bon projeteur, il était chercheur, ou alors ce n'était pas un projeteur, etc. C'est cette, non pas confusion, mais cette fusion qui m'intéressait. Et donc c'est vrai que ce que j'ai travaillé sur le plan conceptuel était toujours dans l'idée comment est-ce qu'un concept ne me pèpe pas à distance du projet, parce que je souffrais trop de travaux de chercheurs qui me fascinaient, que je trouvais magnifiques, etc., mais dont je voyais bien que ça mettait complètement à distance le monde des projeteurs. Moi pas, parce que j'avais acquis un peu de capacité à lire des trucs, mais je voyais bien que c'était répulsif pour le monde de la projetation, quoi. Et donc bon, mon souci a été celui-ci, je crois, et c'est vrai que tous les mots que j'ai essayé de définir, alors jamais de façon... C'est-à-dire, le système ternaire, c'est bien une façon de rendre mobiles les significations, mais que les trois registres permettent de mobiliser mutuellement. Et parfois, il peut y avoir des choses qui sont classées du côté environnemental, médial, etc. Mais du fait que les trois sont coprésents, qu'on se donne comme règle du jeu de les rendre coprésents, eh bien... Les rangs opératoires, me semble-t-il, pour penser du projet et pour discuter de la validité d'un projet, pour élaborer des critères de jugement dans un jury pour ne pas oublier voilà une dimension par rapport à d'autres, pour ne pas se laisser enfouir dans la technicité de l'évaluation des jugements. Là, je pense au jury d'architecture ou d'urbanisme, quoi. Aujourd'hui, on a des critériologies. Alors, c'était moi étant franco-suisse, la Suisse a 20 ans d'avance là-dessus. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est venu en France. Et on a des équipes techniques qui évaluent les trucs. Et puis, il y a 6 critères, 12 critères. 29, j'ai eu 120 critères pour le concours de la gare de Genève. Et puis, j'ai fait remarquer qu'il n'y avait pas un seul critère sur l'usage. Bon, bah c'était ma petite trilogie qui m'a fait dire ça. « Ah, mais monsieur en fou, est-ce que vous pourriez faire des critères sur l'usage ?» Je dis « Oui, mais alors, de mon point de vue, comme il y en a 120, il va falloir en faire 60. Ça va faire peut-être beaucoup au bout d'un moment. » Non, 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 mais bon. Et en fait, voilà, je voyais bien que je m'affrontais à une situation où il y a une suprématie du regard analytique, de la croyance en l'évaluation, etc., qui écrase complètement cela, quoi. Et du coup, je trouve que ces logiques ternaires sont des choses assez simples qui peuvent se déployer en abîme pour aller jusque dans des détails très, très, très fins. Mais lorsqu'on la tient, eh bien, on a un instrument critique au sens à la fois du critère et de ce qui permet de résister face à des pentes qu'on connaît bien, qui est intéressant, quoi. Bon, j'en dis pas plus, mais du coup, c'est vraiment cette espèce de analyse projet, analyse action, quoi. C'est-à-dire que les outils qu'on produise soient aussi opératoires et s'obliger à cela. Et moi, je pense que ça fait partie de la discussion sur la transition écologique, ça.
En fait, je voulais répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'emploi en fait des différents termes. Effectivement, on peut avoir l'impression que la notion de paysage est une notion qui est beaucoup plus facilement employée assez généralement dans nos institutions. Mais j'aurais voulu reprendre un point qui me paraît très important de signaler. C'est, si vous écoutez une conférence des architectes Joly-Loiret, qu'ils ont fait à la Cité du patrimoine sur la notion de milieu dans l'utilisation de leur travail. J'ai trouvé très intéressant le début de leur présentation, parce qu'ils commencent par expliquer qu'en fait, quand ils étaient jeunes, on n'avait pas tellement l'habitude de voyager. Et que, en fait, comme il y a eu l'accélération des billets à bas coût, finalement, ça leur a permis de partir, d'aller beaucoup plus loin. Et c'est une remarque que j'avais constatée aussi, c'est que quand moi j'étais étudiant, les voyages Erasmus commençaient juste. Et donc il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui allaient à l'étranger. Le mieux, c'était effectivement le voyage en Asie avec nos collègues de Belleville, Clément, etc., qui faisaient effectivement, je pense, 2-3 semaines sur le terrain. Mais c'était dans la carrière d'un étudiant une période quand même très restreinte. Et je ne pense pas qu'on avait le temps de s'infuser de la notion de milieu et de la différence. Et dans la conférence de Joly-Loiret, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, je pense que l'accélération des voyages Erasmus, l'accélération des billets d'avion pas chers, l'accélération des déplacements qui s'est fait dans les années 90 d'un seul coup, fait qu'une notion comme la notion de milieu, qu'on ne pouvait pas tellement si facilement appréhender, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'aller vivre si longtemps dans un pays étranger. Naturellement, il y a certaines personnes qui avaient cette expérience-là, mais elle était très réduite. Fait que, bon, finalement, il y avait peu de gens qui pouvaient se rendre compte que quand on vivait à l'étranger, les gens ne percevaient pas les choses de la même façon, que la façon de penser la vie n'était pas la même. Et c'est quelque chose qui s'est extrêmement accéléré de nos jours. Et là où je veux juste aller dans le sens par rapport à ce que vous avez dit, par exemple, la notion de milieu, et ça, c'est noté dans la conférence de Joly-Loiret, on voit qu'elle est maintenant utilisée dans une déclaration de l'UNESCO, où ils utilisent cette notion de milieu, donc en prenant en compte cette différence de perception. Donc on voit que cette idée, qui d'après moi n'était pas du tout commune, en fait, dans les années 80-90, maintenant est quelque chose qui commence à être rentré dans les mœurs. Et le fait de partir du principe que tout le monde ne perçoit pas le monde de la même façon, c'est peut-être pour nous, de nos jours, devenu quelque chose d'assez banal, mais je dirais que quand on est dans les années 80-90, c'est pas du tout banal, en fait, comme idée. Et il y a eu un changement, une mutation qui s'est effectuée, qui, je pense, est très importante. Et qui se retrouve d'ailleurs aussi dans la Convention européenne du paysage, qui demande de prendre ça en compte dans la façon de penser le paysage. Donc je pense qu'il y a eu des idées qui ont été théorisées et qui maintenant sont rentrées, en fait, dans nos façons de penser, quoi.
Peut-être une petite remarque et une question. Je pense que certes, l'accélération par le voyage a été certainement un déclencheur. Après, je mesurais un peu sur le fait qu'il faut se déplacer très loin pour prendre conscience qu'on n'a pas tous la même perception du monde et des choses. Mais au-delà de ça, alors, ce que vous défendrez, ça serait qu'éventuellement, il y a des théorisations qui, à un moment donné, se sont un peu fondues et qui ont pris corps, par exemple, dans la Convention européenne. Alors, le texte, je pense, c'est une portion de territoire telle qu'il est perçue par sa population. Je pense que la phrase est exacte. Donc, il y a eu beaucoup de textes sur la Convention, mais ça, peut-être qu'on pourrait partir du principe que la théorisation par le milieu permettrait justement d'intégrer cette perception variable ou multiple au sein de la définition du paysage.
C'est quelque part la volonté d'Augustin Berg, que d'ailleurs il explique quand il a commencé à enseigner dans le DEA Jardin Paysage Territoire. Le but pour lui n'était pas de discuter de la notion de paysage, c'était de discuter en fait plutôt de la notion de milieu. Pour essayer de montrer pourquoi il y a des paysages qui sont différents selon les milieux, quoi. Et donc, c'était ça son idée. Après, effectivement, ce qui est intéressant dans la Convention européenne du paysage, pour l'avoir fait lire à des étudiants chinois il y a une quinzaine d'années maintenant, il m'avait dit, mais d'abord, pourquoi on prend le mot perception ? Je me souviens que eux, ça les avait choqués, parce qu'ils trouvaient que pourquoi paysage était associé à perception. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a une sorte d'historique qu'on a conservé chez nous en Europe qui est assez fort. Et même s'il y a cette volonté de passer à des paysages sonores, etc. Et puis dedans, je crois que c'est par les êtres humains. Et ils se demandaient pourquoi ça ne serait pas par les animaux aussi. Ça, c'était mes étudiants chinois qui se posaient cette question. Ils trouvaient qu'on donnait une prédominance à l'homme par rapport à ça. Et donc, il y avait effectivement quelque part dans la définition une sorte de dualité qui était à s'instaurer. Et qui les dérangeait un petit peu, je crois.
Oui, peut-être il y a, après cette première phase de discussion, la discussion des questions dans la salle ou des remarques aussi sur nos participants sur Zoom. Donc, sentez-vous libre maintenant, s'il vous plaît, d'intervenir avant qu'on ait cette réaction de deux personnes choisies.
Merci. Merci à tous. C'était passionnant. Moi, je ne suis pas du tout architecte, je ne suis pas du tout de ces milieux-là, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et à vous entendre, me vient une réflexion qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je vous renvoie en rebond. Par rapport à ce que vous disiez sur cette histoire, moi, j'ai toujours été fascinée et passionnée par l'histoire des idées, l'histoire des sciences, et le contexte dans lequel ces contextes apparaissent à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. La manière dont on passe effectivement d'un paradigme à l'autre et où on sort de ce modèle de la tabula rasa. Et on sort d'un modèle peut-être où, en tout cas, on commence à sentir les limites d'un modèle extractiviste aussi, où quelque chose comme un rapport à la nature est en train de bouger. Et que ce terme-là, parce qu'il marque dans l'histoire des idées du rapport de l'homme à l'environnement, un glissement, un changement, une mutation. Et c'est pour ça que par rapport à vos réflexions, là, bien évidemment, on peut trouver certainement autant de définitions de ces termes qui s'emboîtent, qui peuvent se contredire, qui peuvent s'entremêler, qui peuvent s'éclairer, et qu'on peut... passer des heures qui seraient peut-être des heures perdues à essayer de les distinguer. Et en même temps, il me semble qu'aujourd'hui, Jean-Paul, à mon avis, sera d'accord avec moi, on est à un moment donné clé d'un point de vue anthropologique où les rapports entre l'homme et l'environnement sont en train de changer, où les rapports entre nature et culture sont en train de changer, et que pour penser ce nouveau rapport, on a besoin de concepts, on a besoin de mots, et que quand on voit l'entreprise de Bruno Latour qui propose de re-théoriser les concepts, alors lui, c'est une machine à fabriquer du concept, effectivement, mais qui sont des concepts qui sont autant d'aide aussi pour enfin des notions qui sont des notions clés pour nous aider à repenser et à nous réorienter. C'est des boussoles qui nous permettent de nous réorienter. La notion de zone critique chez Latour, je trouve que c'est une notion extrêmement utile. Le fait de rethéoriser la question, enfin de parler de terrestre et non plus d'humain, c'est autant de, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des concepts. Hein, c'est-à-dire que ça nous aide aussi. C'est une boussole théorique qui va nous aider dans l'action. Donc c'est juste par rapport à votre débat à la fin de savoir est-ce que c'est utile de distinguer, de ne pas distinguer. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'usage des concepts, quand est-ce qu'ils sont utiles, dans quel champ ça peut être bien, certes. Mais en même temps, aujourd'hui, on a, à mon avis, besoin d'un équipage théorique différent pour penser un nouveau rapport au monde qui s'impose, qui est absolument nécessaire, qu'on soit simple voilà, citadin, architecte, projeteur, j'aime bien ce terme, anthropologue, que sais-je, enfin voilà.
Je pense qu'on partage tous le fait qu'il faut aujourd'hui avoir des boussoles pour avancer. Je n'ai pas d'avis clair là-dessus, mais je me demande si des concepts aussi galvaudés peuvent vraiment aujourd'hui réavoir une capacité de simple, efficace, frugale d'action. Tous. Non, je ne parle pas de zone critique parce qu'on ne va pas rentrer dans la question de la tour et de ce qu'il peut apporter, mais même d'environnement, de paysage, d'ambiance, de milieu. Il y a eu, je ne sais pas combien de pages décrites et décrites sur chacun et situées dans des périodes données, etc. Je n'ai pas de réponse, hein, mais je me questionne réellement si au final, cette volonté de conceptualiser n'est pas aussi une volonté qui émane du monde scientifique, qui a un besoin qui lui est propre et peut-être qu'il l'éloigne au final d'une forme de réalité de tous les jours, de quotidienne, qui a peut-être des mots autres ou qui a moins de mots ou qui a des mots plus simples. Frugal, pareil, c'est très galvaudé, mais vous voyez ce que je veux dire, des mots au final où on ne cherche pas trop à galvauder du concept qui va nous guider, mais on a un objectif qui va nous guider et peu importe le concept qu'on utilise. Je ne dis pas que, et puis c'est certainement pas noir ou blanc l'un ou l'autre, c'est certainement quelque chose entre les deux qu'il faut réussir à faire, mais moi j'ai de plus en plus peur parce que non seulement on révisite les anciens, mais on fabrique de nouveau. Alors Latour est très fort là-dessus pour fabriquer du nouveau, mais c'est pas le seul, hein, il y a toute une génération derrière lui qui fait de même. On a des dictionnaires maintenant, des nouveaux mots de l'anthropocène avec des inventions quotidiennes de concepts, hein, qui ont chacun sa propre filiation. Donc, je ne sais pas. Moi, je me questionne sur la... Ouais, j'ai peur que ça soit quelque chose de très auto-centré sur ce monde scientifique dans lequel on est affecté.
Moi, je ne partage pas cette inquiétude... je comprends qu'on puisse l'avoir parce que, et c'est bien qu'elle s'exprime, hein, mais je ne partage pas cette inquiétude pour avoir suivi des travaux de terrain et avoir dialogué avec des mondes professionnels et des mondes académiques qui ne se rencontrent pas souvent, à savoir le monde de l'aménagement et celui de l'écologie. C'est vrai qu'on est, on est poussé aujourd'hui par les crises environnementales, bon, les crises environnementales qui sont aussi des crises sociétales. En tous les cas, le dialogue entre, si on voit les choses du côté de l'aménagement, du côté des architectes, des paysagistes, de tous ces professionnels de l'aménagement, le contact, la coopération avec l'écologie est primordiale. Et en fait, elle est loin d'être simple. Elle est loin d'être simple et elle achoppe justement sur des incompréhensions, c'est-à-dire qu'il faut faire tout un travail d'ajustement des notions, d'ajustement de... Déjà, on ne parle pas de la même chose, on n'a pas les mêmes échelles pour regarder les phénomènes, on ne les comprend pas du tout de la même manière. Dans la recherche des transectes qu'on avait... mené avec Nicolas Tixier et puis qui a été mené au sein de l'école du paysage, donc ça c'était en 2012-13 à peu près, On a justement fait un travail de coopération avec des écologues et on s'est rendu compte qu'il fallait à la fois trouver des notions, enfin s'ajuster sur les notions, c'est-à-dire se mettre d'accord sur ce dont on parlait et en tous les cas être capable de se comprendre, même si on a des acceptions différentes des termes. Et puis aussi avoir des outils pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger. Et par exemple, représenter les choses, ben, ça n'allait pas de soi. Chacun a ses codes, chacun a ses routines, ses savoir-faire, etc. Et donc ça aussi, ça demandait de l'ajustement, etc. Donc moi, je crois que non, c'est pas uniquement le monde académique qui s'interroge. Bon, après que la réflexion s'élabore et avance, bien sûr. Mais je pense que... on est revenu, par exemple, sur cette question du milieu. Je parlais de la thèse d'Alexandre Callens. Il est revenu sur cette question de milieu, justement, à partir d'un travail d'observation, de pratique interprofessionnelle avec l'écologie. Et on s'est rendu compte que le milieu était... un terme qui permettait de passer d'un domaine disciplinaire à un autre. Et on s'est rendu compte que, historiquement, ça avait été aussi le cas. Donc, c'est-à-dire que, finalement, le retour en arrière, ce regard rétrospectif, il est aussi prospectif d'une certaine manière. On ne fait pas de l'investigation dans le temps et dans l'histoire pour le plaisir non plus. Enfin, on peut le faire, mais ça a aussi un effet. Enfin, c'est à la fois du rétrospectif prospectif, quoi.
Allez-y, je prendrai après. Non, mais juste, je ne dis pas qu'il ne faut pas, au sein de communautés de travail ou de pensée, discuter des concepts, se mettre d'accord sur des mots communs, etc. Ce dont moi je parle, c'est une conceptualisation hors sol. Le distancier à une certaine réalité. Je ne parle pas là de ce dont vous parlez, du travail d'Alexandre Callens, par ailleurs, qui revient de manière assez intéressante dans les faits sur la notion de milieu et comment ça permet de dépasser des approches très techniques, très normatives de certaines choses, etc. Mais c'est plus le hors-sol, la conceptualisation hors-sol. C'est qu'à un moment donné, une communauté peut définir ses mots, même si elle est mouvante, et après, une forme d'imposition d'un monde à un autre des mots. Là, moi, personnellement, mais c'est aussi des postures personnelles, je pense, j'en mettrai un peu plus de nuances. Mais je pense qu'il y a des réactions, peut-être, c'était Rachel qui avait levé la main, Victor, il va falloir que tu prennes le portable.
Oui, ben, moi, j'avais juste deux remarques, du coup. La première, sur cette histoire des concepts et des définitions qu'on utilise. Alors, j'ai une très petite expérience dans le monde dans lequel nous gravitons tous, mais il me semble qu'à chaque fois, c'est contextuel, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire l'effort de la redéfinition, justement pour qu'on se comprenne entre nous. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, et auquel cas je me trompe, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi. Effectivement, la définition qui est hors sol, qui sort de la communauté de recherche ou la communauté d'intercompréhension, qu'elle soit professionnelle ou habitante, me semble effectivement un travail un peu vain. Et l'autre remarque que j'avais, c'est à propos du fait que l'accélération, notamment du voyage, permette de saisir les différents environnements. Moi, j'ai plutôt l'impression que ces accélérations-là ont justement dégradé la différence entre les différents environnements et qu'ils ont tendance à s'unifier. Voilà, ou s'uniformiser plutôt. C'est les deux remarques que j'avais. Merci.
Oui, voilà. En fait, c'est intéressant ce que dit ma collègue, parce qu'en fait, il y a toujours un revers à la médaille. Effectivement, on peut dire que la mondialisation a tendance à pousser vers une certaine uniformisation, etc. Mais en même temps, dans un autre sens, il y a, pour un certain nombre de personnes, j'entends bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que ça reste limité, mais il y a quand même, pour un certain nombre de personnes, une prise de conscience de l'importance de ces différences. Moi, ces temps-ci, je regarde beaucoup de films étrangers et je trouve que c'est des idées qui commencent à rentrer beaucoup plus dans les films et une prise de conscience qui commence à se mettre en œuvre. Il y a déjà très longtemps, j'avais vu une série sur des films faits par les Japonais, je crois, qui présentaient des villes, différentes villes dans le monde, justement en essayant de partir du milieu local pour expliquer la ville. Entre autres, je me souviens d'une ville en Inde où il y avait la question de la mort, de la renaissance, qui expliquait la... Et je trouvais que c'était très, très bien fait. Et donc, effectivement, j'entends ce que vous dites. Il y a un revers à la médaille, comme dirait ma collègue. Moi, j'aimerais vous donner une date qui est quand même assez intéressante, parce qu'elle est citée, entre autres, par Bernard Lassus, mais je pense qu'elle a eu des impacts, pas simplement sur lui, mais sur beaucoup sur la question du paysage, puis ça se retrouve aussi chez Clément, c'est la question d'avoir marché sur la Lune. Le fait d'avoir marché sur la Lune, c'est commenté dans les textes de Bernard Lossius. Il y a un texte qui s'appelle Le Monument. C'est quelque chose qui est repris par lui, sur lequel il discute beaucoup comment, en fait, ça nous fait évoluer notre vision de la Terre, en fait. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi chez des gens comme Clément, etc. Alors, est-ce que maintenant la Terre est devenue un jardin vu de la Lune, etc. Donc, ça, c'est aussi une idée importante dans l'évolution des notions, qui me paraît une idée essentielle et qui nous interroge, et moi j'en discute avec Bernard Lassus récemment, sur comment effectivement le développement des transports actuellement pourrait aussi nous faire évoluer dans notre façon de voir la planète, parce qu'il y a quand même beaucoup d'évolution dans ce sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est juste une remarque générale, mais je pense qu'il peut être utile pour des étudiants, parce que si vous lisez des textes en fait, de ces époques-là, et moi, pour en avoir discuté avec Bernard Lassus, il me dit, mais tu ne peux pas te rendre compte à quel point ça a été important, le fait d'avoir marché sur la Lune. Comment ça a changé notre vision de la Terre à l'époque et les incidences derrière. Donc il faut aussi se replonger dans l'époque et voir les choses de cette manière-là et qu'est-ce que ça a entraîné. Après, il y a la notion de jardin-monde. Je crois que c'est le titre qu'il a pris pour son jardin ou du Centre Pompidou. Il y a Gilles Clément qui a fait des textes, etc. Donc tout ça, ça me paraît important. Après, moi, j'avais lu le texte de notre collègue qui racontait l'importance de personnes comme Philippe Ram ou Zumthor. Hein. C'est le texte que tu as écrit sur, effectivement, peut-être le développement de la notion d'ambiance. Et je pense que ça, c'est effectivement intéressant. C'est qu'on voit que c'est un peu comme la question des voyages. D'un côté, on a tendance à faire des espaces de plus en plus fermés, claustrés, protégés, où on essaie de contrôler les ventilations, etc. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a des architectes qui essaient peut-être de développer autre chose et avec des sensations dans les espaces intérieurs, sur les ambiances modulables selon les lieux. Et effectivement, je pense à Zumthor ou Philippe Ram qui se posent des questions comme ça. Donc ça aussi, je pense que ça participe peut-être sur la question des ambiances de nos jours et c'est pas signifiant. Mais ça, tu l'as écrit, donc ça serait plutôt à toi de le dire.
Non, moi, je voulais revenir à la fois sur la remarque de Virginie et puis sur la réponse de Théa. Moi, je ne partage pas non plus la conviction, le propos de Théa. Il me semble que dans ce que dit Virginie, enfin, je l'entends comme ça aussi, et tu me diras si je me trompe, hein, Virginie, il me semble qu'il y a aussi à se poser la question de... Le terme n'est pas bien choisi, mais la durabilité dans le temps de ces notions-là. C'est-à-dire, comment se fait-il que ces notions résistent au temps qui passe et au bouleversement aussi. Alors, on est aujourd'hui, effectivement, dans des bouleversements majeurs, palpables, plus ou moins palpables. Mais je trouve qu'il y a aussi cette question-là à se poser et que cette histoire des idées là, qui nous a été en partie retracée ce matin, elle traîne ça aussi avec elle. Et comment, du coup, ces notions peuvent rester opératoires ou peuvent s'équiper d'autres éléments, d'autres dispositifs pour continuer à penser les bouleversements à l'œuvre. Voilà, et je trouve qu'on est peut-être, nous, ici, et c'est aussi l'enjeu de ces journées et puis du programme de travail qu'on a au sein du laboratoire, c'est de se dire, bah, est-ce que ça fait toujours sens, cette notion d'ambiance Si oui, pour quelles raisons et puis comment est-ce qu'elle peut continuer à évoluer pour précisément penser aujourd'hui des bouleversements que jusqu'à présent on n'a pas pensé ou parce qu'on ne se sentait pas suffisamment mûr pour le faire. Alors je pense à ce que tu disais, hein, tout ce qui relève de la crise écologique par exemple, mais aussi comment cette notion d'ambiance, elle pourrait permettre de penser des crises sociopolitiques à l'œuvre, chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Donc il y a un peu aussi cette idée-là derrière ces journées et ces réflexions. Voilà, mais je ne sais pas si je trahis ce que tu souhaitais dire ou pas.
Je m'autorise juste une minute pour poursuivre ce que dit Rachel à l'instant. Effectivement, moi je pense qu'il serait aussi un peu dangereux de penser qu'il y a des concepts qui sont taillés à la mesure
du monde opérationnel et d'autres qui sont hors sol. Peut-être d'ailleurs que la façon dont tu poses la question, la notion de milieu, Pascal, peut être intéressant à ce niveau-là, au sens où là, tu nous montres un rapport au monde qui est inscrit dans la quotidienneté, mais qui n'est pas l'objet d'une prise de conscience explicite de la part des personnes qui ont l'expérience. Et peut-être qu'une des finalités, peut-être de l'invention des notions ou des concepts pour décrire ce monde-là qu'on vit, c'est peut-être mettre des mots précisément sur des phénomènes dont on n'a pas forcément le conscience, quoi. Donc il y a quand même cette dimension-là, je pense, de l'invention conceptuelle et notionnelle. Elle n'est peut-être pas directement ancrée dans le caractère extrêmement outillé, disons, de quelqu'un qui conçoit l'espace ou qui le planifie, mais qui, par contre, est sans doute fondamentale pour réfléchir à la façon dont on est imprégné nous-mêmes du monde qu'on habite, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, mais je clôt le chose. Mais bon, je sais, oui, peut-être la dernière intervention.
Oui, je suis assez étonnée du fait qu'on ait un discours très opératoire ou conceptuel de ces notions et qu'on écarte totalement la question du vécu, des pratiques, parce que notamment ça permettrait de questionner nouvelles pratiques, de nouveaux rapports à la nature, notamment la question existentielle, spirituelle, et on a parlé du Japon, on a parlé de la Chine et de toutes ces spiritualités ou ces manières de rapports différents à la nature qui qu'on accueille beaucoup en Occident de manière un peu revisitée, mais néanmoins. Et donc, finalement, quid du vécu, notamment du vécu habitant particulièrement, dans ces notions-là, par exemple la notion d'ambiance, qui me semble... il me semblait, alors je suis pas au Cresson depuis peu, mais il me semblait quand même que c'était un élément très fort dans cette notion d'ambiance.
En fait, moi, les années passantes, j'ai constaté une chose, c'est que beaucoup de personnes utilisaient la notion de milieu, parfois se référant à Berck, ou parfois ne se référant pas à Berck, mais souvent se référant à Berck, parce que c'est comme lui qui les a beaucoup remis à beaucoup développé, mais qu'il y a très peu de personnes, en fait, qui avaient lu réellement ces textes, et encore moins qu'ils les avaient, je pense, compris. Et ce n'est pas une remarque du tout critique à cet égard, mais c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que c'est très difficile de rentrer dans la pensée d'une personne. C'est extrêmement complexe. Rentrer dans la pensée d'une personne, il faut déjà se mettre un peu à sa place, essayer de comprendre à partir d'où il a développé une notion et pourquoi il l'a développée. Donc, et après, prendre le temps effectivement de lire les ouvrages et de les lire très attentivement et très calmement. Et moi, ce qui m'avait impressionné avec Augustin Berthe, c'est que souvent, après, il s'était mis à relire Wasuji, mais ça a pris quasiment... Wasuji, c'est la personne qui fait référence pour lui sur la notion de milieu, puisqu'il avait publié un livre s'appelait Fudo, je crois que c'est en 1935, si je ne me trompe pas. Et donc, il a passé la moitié de sa vie à essayer de traduire l'ouvrage, et il l'a traduit assez tardivement, finalement. Et c'est là où on se rend compte que c'est très difficile, parce qu'en fait, la notion de milieu en japonais, quand vous essayez de traduire, vous vous rendez compte que chaque mot prend des sens différents. Parce que bon, il n'y a pas la notion de dualisme, donc comment on traduit chaque mot, donc c'est très difficile de vraiment traduire les choses et de se rapporter. On peut peut-être comprendre ce qu'on veut comprendre chez Wasuji si on ne fait pas cet effort-là. Et après, je pense qu'il s'est rapproché de gens comme Heidegger ou de Hützkull, etc. Et à chaque fois, c'est des efforts incommensurables, parce qu'effectivement, il faut lire en allemand le texte, il faut comprendre vraiment en allemand comment on comprend les notions, et comme les notions allemandes n'ont pas le même sens avec tous les sens sous-entendus que va avoir la notion française, comment on fait les rapprochements. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand on dit, bon, les notions, on prend la notion, etc., moi, je trouve que c'est souvent difficile, parce qu'en fait, ces notions-là, si vous voulez vraiment approcher une notion, il faut aller très loin dans sa recherche pour la comprendre. Et après, si vous voulez la rapprocher d'une autre notion, il faudrait faire tout cet effort-là. Et souvent, dans une vie, on arrive à le faire pour 2, 3, 4 personnes vraiment à fond. Mais c'est difficile de le faire plus, je trouve.
S'il n'y a pas plus d'intervention de côté de la salle virtuelle, donc...